Ça fait 30 ans qu'on habite dans un système corrompu totalement, avec des partis politiques corrompus qui exercent une politique de vol. Le peuple n'a plus d'argent, on ne peut plus subsister. C'est pour cela que les gens sont dans la rue.
Les Libanais sont dans la rue. Depuis près d'un mois, la population manifeste et réclame le départ d'une classe politique jugée incompétente et corrompue. La démission du Premier ministre n'a pas suffi à calmer les foules. Liban, les raisons de la colère, c'est un grand reportage de Muriel Parado.
Chaque soir à Tripoli, dans le nord du Liban, c'est le même rituel. La foule se rassemble sur la place Al-Nour, où trône une sculpture illuminée formant le mot Allah, Dieu, en arabe. Sur le côté, au premier étage d'un bâtiment peint en couleur du drapeau libanais, des DJ haranguent les manifestants. Slogans révolutionnaires, chants, danses, l'ambiance est festive. Omeida, une mère de famille de 5 enfants, vient tous les jours depuis le début du mouvement.
Je viens ici tous les jours car on veut faire tomber cette classe politique corrompue. L'ambiance est bonne, c'est enthousiasmant de voir tous ces gens. Ils viennent car ils en ont marre, ils ont faim, c'est pour ça qu'ils viennent crier leur douleur. Et on est tous unis. Les gens pensent qu'il n'y a qu'une seule confession à Tripoli, mais à côté des musulmans, il y a des chrétiens, on est tous unis.
Tripoli, la deuxième ville du Liban, à majorité sunnite, est réputée conservatrice. Mais depuis le début de la révolution, la population manifeste dans la rue, danse sur des chants traditionnels aussi bien que sur de la musique techno. Des femmes voilées côtoient d'autres femmes non voilées. Toutes les confessions et toutes les classes sociales sont représentées. À Tripoli, la mobilisation ne faiblit pas. C'est sans doute parce qu'ici, on n'a rien à perdre. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et les chômeurs sont plus nombreux qu'ailleurs, comme Nasser, 27 ans.
Moi, je viens ici pour la révolution, car je suis chômeur. On n'a pas de travail ici. Si on veut aller à l'hôpital, il faut payer. Il faudrait des soins de santé gratuits et pour l'éducation aussi. Il n'y a pas d'aide de l'État ici. Déjà, on est en crise économique au Liban, mais cette région est particulièrement touchée, donc il y a une blessure qui est énorme.
La vie quotidienne est difficile. Yahya, un retraité de 50 ans, père de 8 enfants, tient à témoigner.
Moi, je suis retraité, j'étais fonctionnaire, donc j'ai une retraite de la fonction publique, mais ce n'est pas suffisant. La vie coûte cher, on n'arrive pas à acheter ce qu'on veut et à bien vivre au quotidien. Des fois, on est obligé de vendre des affaires comme un téléviseur ou un frigo pour ramasser un peu d'argent et boucler nos fins de mois.
À l'écart de la foule, entre les fumeurs de chicha et les vendeurs de galettes au fromage qui font des affaires durant cette révolution, des jeunes discutent. Loaï, 21 ans, est étudiant en littérature arabe. Il donne aussi des cours pour gagner un peu d'argent.
À Tripoli, c'est vrai qu'on vit au jour le jour. On ne peut pas faire de projet, on ne peut pas prévoir de voyager. J'essaie de gérer, des fois ça marche, des fois non. On a toujours peur du lendemain, car demain, on ne sait pas si on aura du boulot. On espère, grâce à Dieu.
Vous, du coup, vous êtes un peu inquiet pour l'avenir, pour fonder une famille?
Aucun jeune ne peut fonder une famille, car on n'a pas les moyens de démarrer dans la vie. Pour pouvoir faire ça, il faut vraiment être exceptionnel dans ses études, pour avoir des opportunités de travail. Ou alors il faut s'exiler pour trouver du travail en dehors du pays. C'est vrai que ce n'est pas facile.
Aux côtés de Loaï, Mira, 20 ans, boucle brune, t-shirt et jean, ne voit aucun avenir pour elle au Liban.
Tous les jours, dès qu'on ouvre les yeux, on n'a qu'un objectif en tête, c'est de quitter ce pays, car on n'a pas d'espoir. Moi, je suis étudiante en master 1 à l'université libanaise. Quand je regarde les enseignants de l'université, qui ont tous des doctorats, ils ont un haut niveau, ils sont toujours en train de faire grève pour réclamer leurs droits. Ça ne nous encourage pas. Moi, j'ai un frère qui est parti du pays pour trouver du travail, je ne sais pas quand je le reverrai. et moi aussi, je pense à partir.
À 80 km de Tripoli, plus au sud, Beyrouth, la capitale libanaise. Au centre-ville, sur la place Riyad al-Sol, un campement de tentes est installé face au siège du gouvernement, protégé par des fils barbelés et par quelques policiers débonnaires. Sous une bâche, des jeunes jouent aux cartes en attendant les manifestations du soir où sans relâche ils réclament le départ de toute la classe politique libanaise, sans exception. Alors ils campent ici jour et nuit et s'organisent comme ils peuvent. Youssef Laoud, la trentaine, a laissé son travail de côté pour se consacrer à la révolution.
Tous ici nous sommes motivés. Je suis un ingénieur, génie de procédés chimiques. Mais au Liban, il n'y a pas de travail dans mon domaine. C'est pourquoi je travaille dans un bar. Parce que les salaires dans mon domaine sont très bas. C'est 500 dollars par mois. Mais si je travaille dans un bar, j'aurai 2000 dollars par mois.
C'est malheureux quand même.
Oui, c'est très malheureux.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'organise, votre vie, au jour le jour?
C'est une révolution du peuple, alors il n'y a personne qui organise. Il y a des gens qui nous donnent à manger, des restaurants comme ça. Et chacun qui a une tente à la maison, il met sa tente ici et dort. C'est comme ça qu'on s'organise. Et l'eau, il y a des industries d'eau qui nous donnent des bouteilles. C'est ça, c'est comme ça.
Le manque de confort n'est pas un problème. C'est comme à la maison, ironise Ahmed, un camarade de révolution.
Ah, ce n'est pas compliqué de vivre ici. Il n'y a pas d'électricité comme à la maison. Il n'y a pas d'eau, mais à la maison non plus.
L'eau et l'électricité, des services de base qui fonctionnent mal au Liban. Un peu plus loin, Mariam, une femme au foyer de 54 ans, a elle aussi planté sa tente. Elle vient de Beyrouth Sud, un quartier déshérité aux mains du Hezbollah, le puissant parti chiite qui fait partie de la coalition au pouvoir. Et elle fulmine contre le manque d'eau courante et d'électricité.
À Beyrouth, l'électricité est coupée en moyenne 4 heures par jour. Nous, dans la banlieue sud, ça peut aller jusqu'à 16 heures. Et puis on achète de l'eau pour boire, on achète de l'eau pour faire la cuisine et de l'eau pour laver notre linge. Dans quel autre pays ça arrive, ça?
Et pourtant, quand il y a toutes ces coupures et ce manque d'eau, d'électricité, vous payez, vous?
Moi, je paye dans les 280 000 livres libanais, c'est-à-dire moins de 200 dollars par mois pour l'électricité à l'État. Et je paye aussi dans les 148 000 livres libanaises, l'équivalent de 100 dollars pour le générateur, car on est obligé d'en avoir un.
Au Liban, il n'y a pas que l'eau et l'électricité qui fonctionnent mal. La population se plaint aussi du système de santé. Nous sommes devant l'hôpital public de Quarantine, à Beyrouth. C'est ici que des patients peuvent venir prendre des médicaments gratuitement s'ils sont munis de papiers provenant du ministère de la Santé, car ils n'ont pas de sécurité sociale. C'est le cas de Mohamed, qui souffre de problèmes neurologiques.
Le médicament que je prends coûte trop cher, donc je viens le prendre gratuitement ici. Si j'avais les moyens, je serais allé l'acheter en pharmacie, mais je ne peux pas. Je ne suis pas couvert par la sécurité sociale car je ne travaille pas.
Marie, une vieille dame pressée, est venue prendre un médicament contre le cancer pour son mari. Lui non plus n'est pas couvert par la sécurité sociale, pourtant il est avocat.
Ce médicament est payé par l'État, je n'ai rien payé, parce que c'est une maladie chronique. Un cancer est payé par l'État, mais il faut faire beaucoup de démarches pour obtenir les papiers qui puissent me permettre de le prendre. Il n'y a que celui-ci qui est payé. Les autres pour le cholestérol, pour le diabète, pour la tension, pour tout cela, nous les payons et ils sont chers.
Et là, ce n'est pas remboursé?
À jamais de la vie. Non, puisque nous ne faisons pas partie de la sécurité sociale. Tous ceux qui ont un travail dans une organisation, on est employé, on a la sécurité sociale. Mais lorsqu'on n'est pas employé, et c'est le cas de beaucoup de personnes, comme mon mari qui est avocat, alors à ce moment, on n'a pas de sécurité sociale.
Et vous trouvez ça normal, ce système?
Non, ce n'est pas normal, mais nous n'y pouvons rien. C'est ça la vie au Liban. On n'y peut rien, ce n'est pas normal du tout, parce que nous aurions dû être couverts par la sécurité, comme dans tous les autres pays qui existent.
Au Liban, une partie de la population n'a pas d'assurance maladie dans un système de santé largement privatisé et coûteux. Dans le centre de Beyrouth, des manifestants mènent ce jour-là une action coup de poing devant un immense immeuble à la façade vitrée. C'est le nouveau siège de la compagnie de télécom MTC Touch, l'un des deux fournisseurs de téléphone et d'Internet au Liban. Il pratique des prix exorbitants pour un service médiocre, se plaint Ahmed, l'un des manifestants.
La première raison qu'on a choisi ce lieu, je pense, c'est parce que MTC, la compagnie de télécom, est semi-étatique. Donc on est en train d'affecter l'État dans tous les cas. Et c'est surtout que la plupart des gens veulent un système de communication qui soit moins cher et... Parce que nous avons les prix les plus chers, je pense, au monde en ce qui concerne la télécommunication.
C'est-à-dire ?
Moi, par exemple, pour tout ce qui concerne la 4G, je paye 33$ pour 10 gigabytes. Les 10 gigabytes, ils me durent 2 semaines. Donc je pense qu'il y a un souci dans la façon de consommation, même si je ne fais rien de spécial, je ne regarde ni de vidéo ni rien. À Paris, je payais 10€ par mois ou 15€ par mois, parce qu'on avait un marché qui était ouvert pour les services de télécommunication, et ce qui fait que les prix étaient assez compétitifs. Ici, on a deux compagnies qui sont les deux semi-étatiques, qui est MTC et Alpha, et qui ont une espèce d'oligarchie qui tient le marché. Donc si moi je vends à 10$, il va vendre à 10$ aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça fait partie d'une... d'une stratégie
En plus, ça ne marche pas toujours très bien, l'Internet au Liban.
Non. Par exemple, pendant les protestations, si on descendait à Riyad al-Salah, on n'avait pas de connexion. Mais on n'a toujours pas la fibre optique. Maintenant, on est en train de l'installer. On est très en retard, on paye le prix très cher.
Hoda, une jeune militante, abandonne son mégaphone quelques minutes pour dénoncer la corruption qui frappe, selon elle, ce secteur de la télécommunication.
Nous savons que MTC et Alpha, les deux seules compagnies téléphoniques donc, qui maintiennent le monopole de la communication, que ce sont des compagnies qui travaillent en lien direct avec ces politiciens, avec cette classe politique. Donc nous sommes ici pour rappeler que nous sommes contre la corruption qui touche différents secteurs de ce pays, mais aussi différents niveaux, et qui au final revient à nous. C'est à notre dépens que toute cette corruption a lieu, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui et qu'on va être dans d'autres endroits.
Ces derniers jours, des enquêtes anti-corruption ont été lancées contre de hauts responsables libanais, dont d'anciens premiers ministres. Dans le centre-ville de Beyrouth, à deux pas de la place des Martyrs, au lieu de la contestation, des grandes tentes accueillent le public. Chaque soir, des débats ont lieu autour de la révolution. On prend une chaise ou l'on s'assoit sur des coussins et les discussions débutent. Ce soir-là, on parle du futur gouvernement après la démission du Premier ministre Saad Hariri le 29 octobre sous la pression de la rue. Tout le monde réclame du sang neuf. L'animateur du débat, c'est Marc Daou, un professeur à l'université américaine de Beyrouth, expert en communication et militant dans les manifestations. Il nous explique pourquoi la classe politique au pouvoir depuis 30 ans est si décriée.
La plupart des partis politiques ont comme héritage le fait d'avoir été des milices durant la guerre civile. Ils ne travaillent pas d'une façon démocratique ou transparente. En outre, beaucoup d'entre eux sont impliqués dans des affaires de corruption. Ils étouffent toute opinion libre ou attaquent les médias ou occupent des postes de pouvoir pour leur permettre de siphonner les fonds publics pour leur propre intérêt.
Les manifestants réclament un gouvernement de technocrates, détaché des partis politiques actuels. Certains veulent aussi mettre fin au système confessionnel qui régit le partage du pouvoir. Au Liban, le Premier ministre doit être sunnite, le chef du Parlement chiite et le président chrétien. Pour Marc Daou, ce changement est possible, mais risque de prendre du temps.
Nous ne remettons pas en cause tous les équilibres du pouvoir au Liban, mais à terme, nous aimerions. Il y a l'article 95 de la Constitution qui prévoit que nous devons élire un Parlement sans confessionnalisme. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons, un changement radical vers un pays laïque. Bien sûr, il faudrait un consensus dans le pays pour commencer à discuter de cela. Il y a beaucoup à faire avant que les gens soient d'accord pour un nouveau contrat social qui n'inclurait pas le confessionnalisme dans les équilibres du pouvoir au Liban.
Banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, le puissant parti chiite armé qui fait partie de la coalition au pouvoir au Liban. Dans une mosquée, des centaines de fidèles sont debout, bras tendus et jurent obéissance à Hassan Nasrallah. Le chef du Hezbollah n'est pourtant pas là. Il vient seulement d'apparaître sur un grand écran de télévision pour délivrer son discours hebdomadaire. Nasrallah n'apparaît que rarement en public pour des raisons de sécurité. Nous avons été autorisés par le Hezbollah à nous rendre sur place et à interviewer quelques personnes autour de la mosquée. Nous tomberons par hasard sur une jeune femme habillée à l'occidentale. Elle dénote dans la population féminine, généralement voilée à Beyrouth Sud. Anna Dishkour enseigne le français et reste très attachée à sa communauté chiite et à son leader.
Quand il y a eu les manifestations, j'ai eu peur qu'une guerre civile se déroule au Liban. Mais ensuite, j'ai pensé que Saïd Nasrallah, il va nous protéger. Parce qu'il nous a protégés contre Israël. Il nous protège toujours. Personne ne peut m'attaquer, ou peut m'attaquer surtout la communauté chiite, parce qu'il a des armes.
On sait que le Liban est très confessionnel, il y a les chrétiens, les sunnites, et les jeunes là, dans la rue, ils veulent que ça ne soit plus confessionnel, le gouvernement, le système.
La communauté chiite soutient Saïd Hassan Nasrallah. Quand les manifestations se sont déroulées, la communauté chiite a participé. Mais quand Saïd Nasrallah a appelé que les chiites ne participent pas, ils se sont retirés de la situation.
Et vous pensez que c'est faisable et souhaitable qu'il n'y ait plus de communauté comme ça, que tout le monde soit finalement...
C'est le Liban. Le Liban égale le sectarisme. C'est à cause de la guerre civile. Personne ne peut accepter l'autre, je crois. Personne. Personnellement, au niveau personnel, non, j'accepte l'autre.
Mais la communauté chiite, c'est communauté. Quand même. C'est important quand même d'y appartenir.
Ouais. Oui, ouais. C'est important, oui.
Retour dans le centre de Beyrouth. Au pied de la cathédrale Saint-Georges, qui jouxte la mosquée Al-Amin, nous rencontrons Colette Melki. Elle est chrétienne et elle veut la fin du système confessionnel au Liban. Colette a 60 ans et a vécu la guerre civile de 1975 à 1990.
Le Liban avance, la guerre au Liban, ici on vivait tous ensemble. Personne ne savait si celui-là était un chiite ou un druze ou un sunnite ou un chrétien. Mais malheureusement, ils ont créé ça pour faire cette guerre et pour en arriver là. Et c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de se manifester pour sortir de tout ça et vivre dans un pays libre, loin de tout ça. On ne veut plus avoir affaire à des confessions ou à des religions. On veut que tous s'aident entre eux pour arriver à un Liban indépendant et libre, loin de tout ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, après 30 ans de guerre. On veut en finir.
Dans le centre-ville de Beyrouth, un nouveau rassemblement se prépare. Les manifestants, comme Rania, sont prêts à rester jusqu'au bout pour obtenir un vrai changement de régime au Liban et une vie meilleure pour tous.
Le Liban, c'est un petit pays. Mais il n'y a rien qui marche. Malgré que nous, on veut la révolution, aussi, on souffre en même temps. Mais je peux te dire que les gens sont conscients que même si on souffre, on va sacrifier des mois et des mois, en souhaitant que ça marche à la fin. Voir de la lumière à la fin.
Liban, les raisons de la colère, un grand reportage de Muriel Paradon, réalisation Jérémy Besset, un magazine à retrouver sur le site de RFI. تهدني بتراب أرض ومنختني لبنان زين تهدني بتراب أرض ومنختني كل من أرضك خاف يفل من لبنان وكل من أرضك خاف يفل من لبنان كلن يعني كلن يفلوا من لبنان كلن يعني كلن يحلوا على لبنان